le Dieu d'amour. C'est pour cela, Seigneur, tu n'as pas hésité à envoyer ton Fils, notre Sauveur. Il est mort à la croix pour nous. Et il est retourné, il est mort, ressuscité, il est retourné auprès de toi. Il est à la droite, à ta droite. Il est parti nous préparer un lieu. En attendant qu'il revienne nous prendre, Seigneur, nous avons besoin de ton instruction, de ton aide. Nous avons besoin d'être conduits par toi. C'est pour cela, Papa, nous venons auprès de toi pour que tu nous parles, tu nous enseignes. Papa, merci pour cette opportunité. Nous te recommandons ton serviteur ancien, Gaston, qui a la grande charge de nous aider à saisir la profondeur de ce que tu veux nous instruire ce soir. Papa, aide ton serviteur à être encore rempli double portion du Saint-Esprit pour que nous ne loupions pas des leçons que tu veux nous enseigner. Papa, merci de les bénir, de les couvrir de ton sang à ce moment, de bénir, de couvrir les fumées, les fils partout de ton sang. Et que la gloire à la fin de cette réunion revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Maman Christine, pour la prière. Nous demandons au pasteur José du Canada. Pasteur, si vous pouvez nous lire notre passage du jour dans 2 Chroniques, chapitre 4, versets 1 à 22. Et ce passage nous vient avec trois questions. La question 1, de quoi ou de qui parle ce verset? La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Merci. Pasteur, si vous êtes prêt.
Oui. Oui, je suis prêt. Je vais lire dans 8 secondes 1910. 2 Chroniques 4, 1 à 22. Il fit un autel d'airain long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Il fit la mer de fonte et lavait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Les figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur deux rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournaient vers le nord, 3 tournaient vers l'occident, 3 tournaient vers le midi et 3 tournaient vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleur de lys. Elle pouvait contenir 3000 barres. Il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit 10 chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernait et il les plaça dans le temple 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et il les plaça dans le temple 5 à droite et 5 à gauche, il fit 100 coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et les grands parvis avec ses portes dont il couvrit d'airain les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Huram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Huram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 400 grenades pour les deux treillis deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets, les chapiteaux sur le sommet de colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous elles, les cendriers, les pelles et les fourchettes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Huram-Abi pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Seada. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, la lampe et les mouchettes d'or, l'or pur, l'or très pur, les couteaux, les coupes et les tasses, et les brasiers d'or pur, et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. C'est la parole du Seigneur.
Nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur José du Canada, pour la lecture. Pour tous nos bien-aimés qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 4, versets 1 à 22. Dans la demande de David, dans 1 Chroniques 29-11, il avait demandé ceci à Dieu. « Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse l'édifice pour lequel j'ai fait des préparatifs. » Effectivement, son fils Salomon met en pratique tout ce que son père lui avait laissé comme instruction. La construction du temple se poursuit et la voilà à la fin parce que Hiram va remettre l'ouvrage entre les mains du roi Salomon avec tout ce qui devait être fait. La paix régnait sur toute l'étendue du pays. Hiram a livré le temple, l'ouvrage qu'on lui avait demandé, et l'a fait avec un esprit exceptionnel et beaucoup de ponctualité. La qualité du matériel choisi est au rendez-vous, une qualité de première classe. Et puis, rien n'a été fait avec négligence, voire même dans le verset 17, l'écologie est respectée, un endroit approprié pour aller fondre tous les matériels qui devaient servir à fabriquer, soit les chaudrons, les pelles et d'autres instruments qu'on devait utiliser dans les temples. Voilà, bien aimé, le passage d'aujourd'hui où les temples de l'Éternel qui devait être construit selon l'instruction reçue et donnée à David. David a transmis le message à son fils, le matériel était là, tout a été utilisé à bon escient et avec une bonne qualité. Il y a un message que l'Éternel transmet à tout un chacun de nous, à la communauté des enfants de Dieu, comment nous marchons, comment nous devons utiliser les instructions que l'Éternel, notre Dieu, a placées en nous. Nous avons médité ce passage, même si ça semble être difficile, mais le Saint-Esprit est là qui nous aide pour mieux décortiquer et comprendre ce que le Seigneur veut et ce que nous devons mettre en pratique. Nous voulons nous édifier les uns les autres en mettant ensemble ce que nous avons pu comprendre en méditant ce passage. La parole est accordée à l'Assemblée des enfants de Dieu. Sentons-nous libres dans la maison de notre Dieu et partageons même les paix que nous avons. Les paix-là peut être une bénédiction, une délivrance pour ton frère ou pour ta sœur. Merci beaucoup. Nous accordons alors la parole à l'Assemblée. Qui voudrait briser la glace, être le premier? Merci, Pasteur José du Canada. Vous avez la parole.
Merci, Papa Gaston, pour la parole. Je commence ici dans le premier verset avec le pronom personnel « il » que nous avons pu voir tout le long du chapitre 3 que nous avons médité hier. J'ai été frappé hier par ce pronom qui est revenu plus souvent « il » presque partout, mais c'est dans le verset 1 du chapitre 3 qu'on voit le qui, donc qui est représenté par ce pronom-là. C'est Salomon. On va dire qu'il a fait ceci, il a fait cela, etc. Et aujourd'hui encore, quand on continue dans la liste des faits, on va dire qu'il a fait la mer de bronze, etc. Et dans la suite, et puis ensuite, je pense vers le verset 'le milieu du verset, on va parler de Uramabi aussi. Ce qui me touche avec ce pronom, c'est que Salomon était roi. Et au fait, il incarnait la réalisation, la matérialisation du projet. On est tous d'accord que ce n'est pas lui qui est descendu sur le chantier pour exécuter les travaux, chacun de ses ouvrages, etc. Mais l'ensemble du travail était sous la direction ou sous l'autorité ou sous l'incarnation de Salomon. Ce qui me touche là-dedans, c'est de dire qu'il y a des personnes, beaucoup d'hommes, des illustres inconnus à nous aujourd'hui, mais qui ont travaillé mais sous la direction d'un seul qui est reconnu ici. Je me dis jusqu'à quel point est-ce que je peux travailler, je peux accepter de contribuer à la mise en place de l'œuvre grandiose de Dieu, même si je ne suis pas connu, même si on ne parle pas de moi. Suis-je toujours prêt à y travailler? Même si on ne parle pas de moi, mais qu'on parle de quelqu'un d'autre, que je m'en réjouisse parce que Dieu m'a placé là où je suis pour pouvoir contribuer, travailler, apporter ce que je dois apporter afin que l'œuvre aille de l'avant. C'est ce qui m'interpelle d'abord dans le premier verset avec le pronom personnel « il ». Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Dans « il », il y a beaucoup de personnes qui ont contribué. Mais notre Dieu qui est fidèle, qui voit tout, et lorsque nous travaillons, même si on ne parle pas de moi, même si mon nom n'est pas cité, mais l'Éternel Dieu des armées, qui voit tout, a retenu mon nom et il m'a réservé des bénédictions parce que j'ai participé à telle ou telle œuvre pour l'avancement de son œuvre. Et nous devons tous nous sentir à l'aise. Salomon, il est le roi, on parle plus de lui. Il n'est pas parti sur les chantiers au front, mais il y avait des personnes. Et ces personnes-là ont reçu leur part des bénédictions ou des remerciements. Nous faisons un travail d'ensemble que nous nous sentions tous impliqués pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Nous accordons la parole au Pasteur Célestin ou à Maman Christine.
Merci, Papa Gaston, pour la parole. Hier, nous avons commencé par voir les débuts de travaux de ce temple. Quand je regarde le premier verset, on nous dit « Il a commencé à bâtir le temple à l'endroit préparé par David sur l'air d'Ornan, les Jébousiens. Alors, rappelons-nous quand il y avait la plaie et que Dieu avait donné cet emplacement qui n'appartenait pas au roi pour qu'il vienne, ça c'est 2 Samuel 24-24, qu'il vienne à l'endroit indiqué sur cette montagne pour y ériger l'autel et plus tard le temple. Le propriétaire du terrain voulait donner à David gratuitement. Mais David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. Donc il avait acheté ce terrain, là où le temple va être bâti, à prix d'argent et très cher. Parce qu'il savait que ce n'était pas, il ne donnait pas à un homme, c'est à Dieu qu'il donnait. Et maintenant, quand nous entrons dans la construction proprement dite, dès le premier verset, nous voyons déjà les matières qui sont utilisées. Il y a du bronze, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a du fer. Et ça, c'est tellement interpellant dans le sens que nous allons découvrir l'utilisation de ces matériaux, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, et même il y a des endroits où on va couvrir l'or massif dans l'ensemble. La leçon que je tire, c'est que tellement qu'il a dit que Dieu était grand, alors ce qu'il offre à Dieu, le matériau qu'il offre à Dieu, c'est pas de n'importe quoi, c'est pas le bois à vil. C'est vraiment des matériaux très chers et pour montrer vraiment la valeur que cet homme donnait à son Dieu. Ça doit vraiment nous interpeller, nous aussi, dans tous les services que nous rendons à Dieu. Nous devons réellement chercher à faire ce qui est mieux et ce qui nous coûte vraiment cher à cause de la valeur que nous devons aussi donner à notre Dieu dans notre génération. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour ce partage. Nous devons considérer ce que nous offrons à Dieu quand nous voulons travailler pour l'avancement de son œuvre, même le temps que nous passons ici pour notre méditation. La qualité du matériel est au rendez-vous. Même si ça coûte, je dis, ce que Christ a fait, si Jésus-Christ réfléchissait, allait-il mourir pour des pécheurs, un pécheur comme moi? Il a donné le meilleur en contrepartie que je donne le meilleur de ce que j'ai, le meilleur de mon temps. Ce n'est pas seulement prier lorsque je sens que je suis menacé par le sommeil, que je donne le meilleur de mon temps à mon Dieu, le meilleur de mes finances, le meilleur de tout ce que j'ai, que ce soit les prémices, la meilleure des qualités, qu'elles soient réservées à l'Éternel des armées. Merci beaucoup, Pasteur Célestin. Nous accordons la parole au Pasteur José du Canada. Pasteur, vous avez la parole.
Oui, merci encore pour la parole, frère. Je suis d'accord avec ce partage que vient de faire Papa Célé. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le disons bien souvent tant qu'il s'agit de ce que Dieu doit faire à notre endroit. Mais nous ne devons pas aussi oublier que le même Dieu à qui Salomon a consacré le meilleur de ses biens, de ses forces, le même Dieu à qui David n'a pas voulu donner une offrande qui ne lui coûtait pas, plusieurs siècles avant, sur la même place, à la même montagne, Dieu avait aussi exigé que Abraham lui donne ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire son fils. C'est sur le mont Morija que Dieu avait ordonné à Abraham de lui consacrer Isaac. Et c'est un lieu rempli de symbolique, un lieu rempli de l'histoire spirituelle du peuple d'Israël. parce que c'est un lieu aussi qui préfigure ce que Christ va faire plus tard. À ce lieu-là, Dieu a pourvu. C'est comme ça que nous l'appelons Jéhovah Jireh. Dieu a pourvu en donnant un bélier à la place d'Isaac. C'est-à-dire que Abraham a donné le meilleur. David a donné à Dieu ce qui ne lui pouvait pas. En fait, il a donné ce qui lui coûtait. Aujourd'hui, si Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas ce que les patriarches dans la foi ont fait. Je me dois aujourd'hui, ma question est, est-ce que je démontre que Dieu est important à mes yeux par les gestes que je pose? Pas en lui donnant les miettes de mon temps, les miettes de mon énergie, les miettes de mon argent, ça démontre simplement que Dieu n'est pas important à mes yeux. Mais si il l'est, il mérite vraiment le meilleur, tout ce que j'ai de précieux. Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Dieu mérite le meilleur de ce que j'ai et de ce que je peux avoir. Si je peux réaliser qui je suis, ce que je suis devenu en Christ, quand j'étais dans le monde, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'il reviendra, comment serai-je? Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Nous revenons à la famille du Pasteur Célestin. Et vous avez la parole, si c'est le pasteur ou maman Christine.
Oui, merci ancien Gaston pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 4. Mais qu'est-ce que je voulais relever sur le matériau et la, disons, les mesures? On fait sentir vraiment l'harmonie dans le travail. On sait ici, c'est 20 coudées, et de l'autre côté, 20 coudées. Là-bas, si c'est 5, la 10, la hauteur 10, 10. Donc, on se voit vraiment que c'était comme un carré, je peux dire. Donc, dans le travail du Seigneur, il faut vraiment l'harmonie. Et quand nous voyons les 12 B là, ça représente du moins les 12 tribus d'Israël. Et la façon dont c'est classé 3-3, on dit 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers midi, 3 tournés vers l'orient. Donc, on sait voir que Dieu, quand il fait quelque chose, quand il inspire de faire, on sait sentir l'harmonie dans le travail du Seigneur. Et ici, c'est comme une interpellation. Tout ce que Dieu fait, c'est au profit de son peuple. Et cette construction, on va faire, c'est l'endroit où Dieu va être honoré, on va lui offrir des sacrifices, mais il pense toujours à son peuple. Donc, vraiment, Dieu nous aime beaucoup. Là, je vois l'amour de Dieu qui n'oublie toujours pas de son peuple. Donc, chaque jour de son trône, il pense à moi, il pense à vous, mon frère et ma soeur. Amen.
Amen. Et au profit de son peuple. Et ce que Dieu offre à son peuple n'est pas de seconde main. Et c'est fait et tissé avec harmonie. Dieu est merveilleux. Si lui, l'éternel Dieu des armées, qui se suffit à lui-même, peut nous offrir cela et a fortiori nous, les rachetés, qui gisions dans la boue, personne ne prenait soin de nous. Mais son fils est passé, il nous a vus, il nous a dit que nous vivions, il nous a accordé la vie. Pourquoi ne donnerions-nous pas avec empressement et les prémices de la qualité de notre vie? Merci beaucoup, maman Christine. Nous, si nous revenons encore au verset 1, il fit un autel de bronze. L'autel de bronze, le pasteur Célestin a soulevé les qualités du matériel utilisé, un matériel qui coûte très cher, et nous voyons les bronzes utilisés ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci: ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'une fournaise. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il revient, ses pieds seront comme du bronze qui semblait rougir au four. Et ici, le matériel utilisé, c'est une qualité exceptionnelle. Cela symbolise la justice que l'Éternel, que notre Seigneur Jésus-Christ va apporter quand il reviendra. Parce qu'il ne va pas tolérer le mal, ses pieds vont fouler tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, en exerçant le jugement. Parce que quand il reviendra, il ne sera plus l'avocat, il sera là pour rendre justice, pour rendre le jugement plutôt. C'est ce qui m'a beaucoup interpellé, de voir que le matériel utilisé ici n'est pas un fait de hasard. On en parle dans Chronique et dans Apocalypse, on en parle, et les pieds de notre Seigneur seront de la sorte. C'est pourquoi l'autel où étaient offerts des sacrifices est fait avec ce métal, le bronze. Et cela nous montre la qualité qui symbolise cette justice que notre Seigneur Jésus-Christ va rendre quand il reviendra au milieu pour nous prendre. Merci. Nous continuons. Nous sommes au verset. Nous pouvons encore aller au verset 2. Et la mer de fonte, elle avait six coudées. Quand nous avons parlé de l'autel de bronze, il y a aussi la mer. La mer où les sacrificateurs devaient se laver, laver les mains pour les services. Et pour construire cette mer de fonte, on a utilisé deux baies. Maman Christine en a parlé. Il y avait 12 baies, 3 du côté nord, 3 du côté sud, 3 du côté de l'est et 3 du côté de l'est. Ainsi, le sacrificateur, quand il entrait pour faire son service, peu importe le côté où il pouvait entrer, il voyait ce bœuf. Ces bœufs qui sont les synonymes de la patience. Quel que soit le problème, dès qu'il arrive, avant de se présenter, de laver ses mains, il voit cette patience. Il doit être caractérisé de cette patience. C'est cette patience qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, imaginons-nous combien de fois péchons-nous par jour. Combien de fois avons-nous péché avant de rencontrer Jésus-Christ? Combien de fois avons-nous péché depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ? Et chaque fois que nous nous présentons devant lui, nous demandons pardon, il nous pardonne. Et nous sommes purifiés. Que cela nous interpelle aussi. Voilà pourquoi cette mer de fonte était posée sur ce baie en signe de patience. La patience qui doit caractériser les enfants de Dieu. Et souvent, nous donnons des matières, des réflexions aux gens du monde un enfant de Dieu qui se laisse emporter, qui est impatient, ainsi de suite. Voilà cette image où nous sommes interpellés à vivre dans la patience, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous sachions que le Seigneur nous pardonne, nous purifie chaque fois que nous nous présentons et dit « Je t'ai pardonné, mon sang a coulé pour toi. » Merci, nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci papa Gaston pour la parole. Moi j'arrive au verset 7. Salomon fait faire 10 chandeliers d'or selon la règle qui les concernait et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Les chandeliers devaient allumer continuellement ces chandeliers. Ça symbolisait la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et la leçon que je tire, c'est que chaque enfant de Dieu doit rechercher la présence de Dieu à tout moment. Nous devons rechercher la présence de Dieu à tout moment. Et cela ne peut se faire que par l'entretien de notre communion avec Dieu chaque jour. C'est vrai que nous restons des hommes, nous restons des pécheurs, mais nous devons toujours veiller à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Quand le Saint-Esprit nous montre des choses à arranger, nous devons le faire parce que la présence de Dieu doit être continuelle et permanente dans la vie de chacun de ses enfants. Amen.
Amen. La présence de Dieu doit être manifeste et continuelle dans chacun de nous. Pour passer à Célestin, nous accordons la parole au frère Thomas. Bien-aimé, vous avez la parole.
Oui, bien-aimé, je suis au verset 11. Je ne sais pas si on peut y aller déjà, 10 et 11.
Oui, bien-aimé, vous pouvez y aller.
Moi, je suis touché par le témoignage de ce monsieur Ouram, parce que au chapitre 2, le roi Salomon avait écrit à Ouram, le roi de Tyr, pour lui demander de l'aide sur la provision et qu'il envoie quelqu'un qui pour le cèdre et qui est habile à faire des choses comme ça. Il va choisir Ouram. Ce roi a dit qu'il a choisi Ouram habile qui était né d'une femme israélite de famille de Dan, et puis le papa était tyrien. Cet homme-là est venu et il a travaillé, et au verset 11, il est dit, Ouram fit les chaudrons, les pelles, les calices, ainsi Ouram acheva l'œuvre qu'il avait faite pour le roi Salomon dans la maison de Dieu. Je suis flatté par la fidélité de quelqu'un pour qui on a donné un bon témoignage. Et quand il vient, il fait des travaux ingénieux, très compliqués. Le bronze ici, je ne suis pas tellement ingénieux, moi, pour comprendre les mécaniques de tout ce qu'on dit ici. Mais je suis impressionné de la qualité, de la capacité de cet homme de faire des choses avec précision scientifique, au point que à la fin ici, il est dit, il a achevé l'œuvre. Je vois comme Paul qui dit qu'il a combattu le bon combat, il a couru la course, il a gardé la foi et maintenant, il a achevé la course. Maintenant, la couronne va m'être réservée. Donc, je prie que Dieu me donne le zèle, l'envie, la détermination, le courage, la joie d'achever l'œuvre, de ne pas seulement la commencer, mais de savoir l'achever. Merci.
Merci beaucoup, bien-aimé, frère Thomas. On a parlé de la qualité, il y a maintenant la fidélité, la capacité, les ailes et surtout cette détermination d'aller jusqu'au bout. Il nous arrive souvent de nous décourager. Il nous arrive souvent de nous attarder aux futilités, non parce que le pasteur a fait ça, parce que le frère a fait ça, la sœur a fait ça, j'abandonne. Vous abandonnez, c'est vous abandonnez l'œuvre de Dieu. Que cela nous interpelle. Suis-je fidèle? Quelqu'un, Dieu n'est pas ingrat. Quand on se met au travail pour lui, c'est mentionné, il le sait. Et la qualité dépensée par Ouram, la parole de Dieu nous en parle. Que cela aussi nous inspire. Merci beaucoup, bien-aimé Thomas. Nous accordons la parole au pasteur José du Canada.
Oui, merci frère encore pour la parole. On a vu depuis ce qu'on a lu hier et aujourd'hui encore, dans le temple, il y a des objets différents, des formes différentes, des géométries différentes, mais des objets qui sont fabriqués aussi avec des matériaux différents. Par exemple, nous avons des objets en bronze, nous avons des objets en or, nous avons des objets en argent, etc. Paul dit à Timothée que dans toute maison, et surtout évidemment dans les maisons des nobles, ou même dans n'importe quelle autre maison, il y a des objets d'usage vil et des objets d'usage noble. Et il va défier un peu, disons, montrer à Timothée d'être pour Dieu ce type d'objet d'usage noble qui est, en fait, comme dans la maison, il y a des fois les sept des tables qu'on ne sort que lors des grandes occasions, c'est-à-dire on leur donne beaucoup de valeur. Je me dis, jusqu'à quel point est-ce que je suis un objet de valeur dans la maison de Dieu? Spirituellement, suis-je cet objet si précieux que Dieu peut utiliser dans sa maison? Ça va un peu dans le même sens que ce que le frère Thomas vient de dire tout à l'heure. Que Dieu se serve de nous aidant à être des instruments, des objets utiles dans sa maison. Des objets qui travaillent, qui contribuent à l'édification de la maison de Dieu. Et en regardant les différents matériaux, je me dis, en quoi est-ce que je suis fait, moi? Est-ce que je peux être ce matériau d'usage si utile à Dieu, afin qu'il se serve de moi, que je devienne de plus en plus utile comme Huram Abi avait été? Voilà.
Merci beaucoup, Pasteur José du Canada. Que je sois un objet de valeur dans la maison de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous méditons ce passage où nous méditons la parole de Dieu, Dieu a un message à transmettre à tout un chacun de nous. Il transmet le message à toute la communauté. Et il transmet aussi le message à tout un chacun de nous pour voir la qualité de ce que nous faisons comme travail. Lui, nous avons vu ce que lui, il a fait. Il fait tout avec harmonie. Et nous, de notre part, nous devons aussi nous préoccuper d'être et de lui rendre service et un service vraiment digne de cette qualité. Dans Apocalypse, je pense, chapitre 4, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Lorsque nous avons vu la mer de fonte, Là, c'est pour se purifier. Lorsqu'il y a des souillures, on se purifie pour être pur, pour faire le travail du Seigneur. Quand notre Seigneur viendra nous prendre, et là où nous serons, nous n'aurons plus cette eau, la parole de Dieu, parce que là où nous serons, il n'y aura plus de péché, mais c'est une mer de cristal étincelant. Donc quelque chose qui brille de qualité et de valeur. Voilà pourquoi nous devons nous exercer à vivre, à faire le travail du Seigneur et accorder cette valeur dans tout ce que nous faisons pour l'avancement de son œuvre. Et nous devons vivre cela avec cette détermination. Que puis-je faire encore? Que puis-je encore mieux faire pour l'avancement du Seigneur? Et souvent, il y a cette autosatisfaction où j'ai dit, non, j'ai versé hier quelque chose, hier j'ai prié deux fois, aujourd'hui je ne prie pas. Non, bien-aimé, quand ce temps est là, ayons cette détermination, ces ailes-là, de continuer et d'aller loin dans l'œuvre du Seigneur en faisant cela avec empressement et avec qualité. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman.
Oui, merci à Saint-Gaston pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 11. Je vais foler 18 aussi. Et avant que j'intervienne, quand papa Gaston parle toujours de la mer de verre, quand nous étions au pays, j'ai eu une grâce de me retrouver dans une mer de verre comme ça, après un temps de long temps de prière, je me suis retrouvé. Donc quand il parle, j'ai eu la grâce de foler voir ça comme ça dans une des visions. Le verset 11 nous dit que Hiram, il a achevé l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Ça m'a beaucoup touché. Hiram, c'est un païen. Pour dire que, bien aimé, si un païen doit faire un travail pareil, moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché pour dire que il faut pas que nous continuions, disons, à crier chrétien. Non, non. Il y a aussi des païens qui sont fidèles et qui peuvent travailler pour le Seigneur. Donc, si le païen doit respecter comme ça, quel exemple pour moi? Un très bon exemple à suivre. Et 18, c'est la qualité, comme le disait Pasteur Sélé, et la quantité que tel Salomon a mis, disons, avec ce que son père avait fait. On dit, on ne vérifia pas le poids de leur reins. Tellement c'était beaucoup. C'est comme une interpellation. Quand je donne au Seigneur, est-ce que je ne suis pas là en train de regarder seulement, je peux donner 10 dollars, 20 dollars, ce qui ne me coûte rien. Mais Dieu, il voit ce que j'ai. Et ça, Salomon me montre un très bon exemple à suivre. Que le Seigneur me fasse grâce de lui donner la meilleure de moi-même. Amen.
Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce de lui donner le meilleur de nous-mêmes. Quelle quantité! Donc, ils étaient même dans l'impossibilité d'évaluer les poids du bronze. Le peuple s'est donné à cœur pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Merci beaucoup, maman Christine. Nous accordons la parole au frère Thomas. Bien-aimé, vous avez la parole.
Merci, frère, pour me donner l'occasion de revenir. Le verset 16 dit qu'il y avait des chaudrons, des perles et des fourchettes, tous ces objets que Hiram Abi avait fait pour le roi Salomon, pour la maison de terre, étaient de bronze poli. Moi, la vérité que je tire ici, c'est que Dieu, le bien que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas oublié, ce n'est pas en vain. Ça ne part pas perdu. Si nous servons Dieu, Si nous donnons de l'argent aujourd'hui dans les funèbres pour l'organisation du camp, aider un peu dans les factures, nous, à l'église, toutes ces petites choses que nous faisons par rapport à l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, c'est pas perdu. Parce que le Seigneur a dit, même quand on donne un verre d'eau à un serviteur de Dieu, on ne perd pas cette récompense-là. Je ne pense pas que quand le roi Huram avait appelé Huram Abi pour lui dire, je vais te donner du travail, je ne pense pas qu'il lui a dit, si tu fais ça, on va écrire ton nom dans la Bible, toutes les générations qui suivront liront que toi tu l'as fait. Non. Il est allé faire ce travail, il a terminé, et sa vie s'est terminée, il est parti. Il ne savait pas qu'il fera partie, son nom sera écrit dans ce livre ici de la Bible, la parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui. Et nous parlons de lui aujourd'hui. Et sa génération, on va toujours, son nom sera toujours écrit parce qu'il a fait ça. Donc je trouve que si nous obéissons à Dieu, nous servons Dieu, nous donnons dans l'œuvre de Dieu, nous nous investissons, ce n'est pas perdu. Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que nous avons fait et que nous continuons à faire, selon Hébreux 6, 10. Merci.
Merci beaucoup, bien-aimé. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui et pour soutenir son œuvre. Bien-aimé, nous revenons encore sur Huram. Il a livré les travaux, les produits qu'on lui avait demandés. Est-ce que je suis conscient, il m'arrive des fois de me poser la question, qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Est-ce que je l'ai fait? Pourquoi suis-je à ce moment sur le plateau en train d'entendre cette parole? Il n'y a pas du hasard chez Dieu. Est-ce que j'ai fait le travail? On m'a confié une mission bien importante. Est-ce que je l'ai exécutée? Ou j'ai fait attendre Dieu? Ou par exemple, quand on veut travailler, on arrive, on se donne un certain temps. Il y a des sœurs ici que je vois, lorsque 21 heures sonnent, elles sont là. Et si moi je peux le constater, et a fortiori Dieu, comment je considère l'œuvre du Seigneur pour livrer la marchandise qu'on m'a confiée, le travail qu'on m'a confié, la responsabilité qu'on m'a confiée? Comment je gère cela? Et comment je le fais? Avec empressement, avec nonchalance, ou je le dis parce que je suis chrétien, tout le monde sait que je suis chrétien. Je vois, le pasteur n'est pas là, tel frère ou tel sœur n'est pas là. Il n'y a rien de m'empresser. Je travaille pour Dieu et non pour un homme. L'œuvre de Dieu est considérable. Mais si je m'y mets à cœur, si chacun de nous s'y met à cœur, comme Huram s'est mis à cœur, la maison sera vraiment travaillée, respectée et toute chose sera à la place au moment voulu. Merci, nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, papa Gaston. J'arrive au verset 21. Et là, je constate que tout ce qui va être utilisé, il y a d'abord les fleurs, ensuite les lampes et les mouchettes, et tout c'était d'or. Et d'or très pur. Alors je me disais, mais pourquoi utiliser les fleurs au temple? C'est pour ornement, mais pour qu'est-ce qu'il y a à orner pour Dieu? Donc pour dire que Dieu tient compte même de la beauté, même de l'ornement, même de ce que nous devons faire pour embellir. Là où nous sommes en train de l'adorer, là où nous sommes en train de l'exalter. Voici la leçon que je tire quand on était en train d'embellir ce temple. Tout ça, c'est toujours lié à la grandeur, à la puissance, au règne d'un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. sur la terre. Amen.
Amen. Merci, Pasteur Célestin, pour honorer cela et embellir. Quand nous regardons sur le verset 17, les rois firent fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol. Et nous mettions de l'ordre. Ne mélangeons pas ce qui est vil et ce qui a de la valeur, ce qui est profane et ce qui est sacré. Même pour tenir compte de l'écologie, il y avait un endroit spécifique où on devait fondre tous ces métals afin d'avoir la meilleure des qualités. Embellissons ce que nous faisons, allons de l'avant, ne nous arrêtons pas seulement, non, j'ai fait, non. Qu'est-ce que je peux encore faire? Il y a encore toujours quelque chose à mieux pour aller de l'avant, pour faire. Que Dieu nous fortifie et que cette parole puisse porter des fruits dans la vie de tout un chacun de nous. Nous allons demander à notre sœur Marie Mouleka, si elle a le pain du jour, qu'elle puisse nous lire le passage du jour. Ce passage fait par, commencé par notre bien-aimé Aboa Gilbal de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous arrêter par ici et notre sœur, si elle a le pain du jour, elle peut nous lire les commentaires du jour. Allô? C'est Marie? Ok. Sœur Abéné, pourriez-vous lire, vous avez le pain du jour?
Oui, je l'ai.
Ok, vous pouvez aller, ma sœur.
Confection des objets sacrés. Successeur fidèle. Pour l'équipement du temple, Salomon respecte les instructions et le plan laissé par son père David. Vous m'entendez?
Oui, 5 sur 5.
Belle leçon de fidélité pour tous ceux qui doivent poursuivre une œuvre à la suite d'un autre. Objet préfigurateur. Salomon fait fabriquer pour l'équipement du temple plusieurs objets devant servir à l'adoration et chaque objet avait son rôle. Par exemple, l'autel sert pour les sacrifices. Les cuivres sont destinés aux purifications des sacrificateurs et des sacrifices. Verset 6. Les chandeliers éclairent et symbolisent la présence permanente de Dieu, etc. Jésus-Christ s'étant déjà donné comme sacrifice parfait pour notre salut, Dieu demande de nous désormais la consécration de nos vies. Voir Romains 12, versets 1 à 2, Hébreux 13, verset 15, et nous invite à la pureté et à la sanctification. Quant à la présence permanente de Dieu en nous par le Saint-Esprit, elle nous aide à refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Philippiens 2, verset 15. Huram, un artiste au service de Dieu. La confection de tous les ustensiles a été l'œuvre d'Huram Abi, un ouvrier d'exception. L'examen de ses ouvrages, versets 11 à 22, montre l'artiste hors pair qu'il était. Note de satisfaction, Huram a achevé tout le travail à lui confié par le roi, verset 11. Il n'a ni abandonné le chantier, ni détourner le matériel destiné aux travaux, ni livrer les travaux commandés en retard. Il a tout achevé à la perfection et à temps. Cela doit nous interpeller tous, en particulier les ouvriers et artisans chrétiens. Prolongement. Huram Abi est pour le temple, le Bessaël du tabernacle, dans Exode 31, versets 1 à 5. Merci.
Merci beaucoup, ma sœur Abéné, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, c'est par ici que nous mettons fin à notre méditation d'aujourd'hui. Nous mettons fin, mais cette parole que nous avons méditée puisse continuer à travailler en nous et que nous en produisons des fruits qui glorifie l'Éternel, notre Dieu. Pour les annonces, nous voulons remercier et encourager tous nos bien-aimés, ceux-là qui contribuent, qui envoient quelque chose pour soutenir les camps bibliques qui va se tenir en Belgique du 31 juillet au 2 août. Et que ceux-là qui ont pris aussi l'engagement de le faire, nous attendons votre apport, que l'Éternel vous bénisse. Nous donnons la parole au pasteur Célestin pour les annonces et pour la prière de clôture.
Oui, merci papa Gaston pour la parole. Comme d'habitude, nous donnons l'annonce sur les frères et sœurs qui sont à la radio. Il y en a en Alberta et puis aux États-Unis, mais l'État n'est pas précisé. Soyez bénis là où vous êtes, que le Seigneur vous comble aussi de toute sa grâce. À part ça, il n'y a que le camp biblique qui reste le point focal pour tous les préparatifs. Donc, comme nous avons vu dans ce travail, même si on était ils seulement, mais c'est beaucoup de gens qui étaient impliqués. Donc, nous devons vraiment nous impliquer pour la réussite de ce camp. Dieu sera honoré quand plusieurs personnes peuvent retourner à la parole, à la méditation réfléchie que nous faisons chaque soir. Merci. Notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voyons combien ce serviteur de Dieu, Salomon, a suivi les instructions et de son Père et de Dieu. Il n'a pas voulu donner, comme son Père, un travail bâclé. Il a cherché vraiment de la qualité dans la construction. C'est ainsi qu'il va utiliser cet homme, Huram Abi, un expert vraiment spécialisé dans beaucoup, beaucoup de travaux. Et même tous ceux qui vont visiter ce que cet homme a accompli, ils vont dire, on n'a jamais vu un tel bijou sur la terre. Cela a attiré des gens de partout, dans le monde entier, pour venir visiter la beauté de ce temple. Tout cela fait par cet homme d'un côté israélien et d'un autre côté païen. Ça doit vraiment nous interpeller pour que nous puissions nous investir là où Dieu nous a placés. Il nous a placés dans notre église, il nous a placés au sein de FIMES, partout dans le ministère, là où nous faisons. Le Seigneur veut qu'on puisse investir le temps de qualité, nos moyens, tout ce qu'il nous a donné pour que nous puissions vraiment faire le travail de Dieu. C'est vrai, Huram Abim travaillait pour Salomon, mais c'était pour Dieu qui le faisait. Aujourd'hui, son nom reste dans les Écritures et nous voyons le sérieux qu'il a donné. Même si c'est un homme qui lui a donné du travail, mais il sait que ça, c'est le travail de Dieu. Cela doit nous interpeller. Quand notre pasteur nous donne du travail, tel responsable nous donne du travail, ça doit vraiment nous interpeller de savoir que même si c'est lui qui me le demande, mais c'est Dieu qui me demande au travers lui. Merci pour toutes ces instructions passées des milliers et des milliers d'années qui continuent à nous enseigner, nous aussi, à l'œuvre de Dieu que Dieu nous a confié aujourd'hui. Merci de bénir toutes nos familles représentées sur le plateau, représentées à l'écoute de la radio et beaucoup d'autres à travers le monde qui vont nous écouter. Et nous voyons des personnes vraiment fidèles chaque soir ou chaque matin, connectées en train de méditer ce que les frères et sœurs de l'Amérique ou de l'Europe ont médité. Quelle gloire de propager la parole de Dieu à travers le monde. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu. Que le Saint-Esprit continue à travailler pour que non seulement nous écoutons la parole, mais que la parole nous change, que la parole nous façonne, que la parole nous aide réellement pendant le temps qui nous est donné sur la terre, d'être sérieux avec Dieu, d'être sérieux à son travail, d'être réellement à notre place, à la place que Dieu nous a placée. Bénis chaque famille, bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a conduit, toute sa famille et tout ce qu'il est en train de traverser, que le Seigneur se souvienne de cela. Que la grâce et l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, que la communion du Saint-Esprit accompagne chacun et chacune d'entre nous dans le beau nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons béni. Amen.
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 Merci beaucoup, Pasteur Célé. Notre passage de demain, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 1 à 14. Et ce passage vient avec la question 3 et 7. Une fois de plus, merci, bien-aimé. Yeah.